durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une méthode agricole qui associe les arbres aux cultures ou à l'élevage. Nous sommes en Meuse, à Revigny-sur-Ornain, à la coopérative d'entreprise Synercop, avec le fondateur de Sylvaterra, conseil et formation en agroforesterie.
Durablement vôtre, Eric Mutschler.
Dempsey Princey, bonjour.
Bonjour Eric.
Dempsey Princey, l'agroforesterie, c'est quoi ?
Alors l'agroforesterie, c'est l'association des arbres en agriculture. Donc c'est remettre de l'arbre hors forêt, à la fois dans les pâtures, si c'est de l'élevage, mais aussi dans les cultures, si on parle de grandes cultures. Donc l'agroforesterie, c'est vraiment de l'arbre champêtre en milieu agricole. C'est des arbres au service de l'agriculture et ça a différentes formes. Donc on parle d'agroforesterie, mais c'est un nom qui regroupe plusieurs systèmes de production. Ça touche à la fois tous les systèmes d'élevage, que ce soit parcours volaille, élevage bovin, élevage ovin, élevage porcin aussi en plein air. Et c'est l'arbre sur toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois sous forme de haie. Ça peut être de la ripisylve, c'est de l'arbre planté en alignement dans les cultures ou dans les pâtures.
Ripisylve pour ?
Alors ripisylve, c'est de l'arbre en bord de cours d'eau. Voilà, on a traditionnellement des pâtures hein, qui sont bon de cours d'eau, avec lesquelles bah voilà, les arbres sont au sein de la pâture. Donc c'est une forme d'agroforesterie. C'est également les prévergers, la haie, enfin voilà, c'est vraiment tout sous
ces formes. Mais ce que vous décrivez ici, c'est le paysage que l'on a connu, on va dire, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant l'arrivée de l'agriculture intensive. Aujourd'hui, on parle d'agroforesterie. Est-ce que ce n'est pas un peu un néologisme ou un mot-valise pour décrire quelque chose que nos anciens ont très bien connu ?
Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis généralement aux gens à qui je parle d'agroforesterie. On n'a rien inventé. C'est en fait remettre au goût du jour des pratiques ancestrales hein, qui se faisaient. L'association arbre-animal ou arbre-culture, on a plein d'exemples comme ça historiquement. Hein. On sait déjà au Moyen-Âge qu'on avait des associations de fruitiers, légumes, céréales, alors que ça soit même avec la vigne par exemple, hein, avec des hautains ou des houlières qui associaient la vigne avec les fruitiers. Par exemple, les pêches de vigne, hein, c'est vraiment une forme d'agroforesterie aussi.
Et oui, bonne remarque. Mais alors pourquoi, si ces pratiques ancestrales ont fait leurs preuves, pourquoi l'arbre a disparu de nos paysages Dempsey Princey ?
Alors, c'est une question un peu complexe, mais pour donner quelques éléments de réponse, le premier, je pense que voilà, il y a eu, comme tout le monde sait, les remembrements, hein, où il a fallu agrandir les parcelles, la mécanisation qui a joué aussi. Des éléments voilà, qu'on ne pense pas forcément, mais par exemple l'invention de la tronçonneuse dans les années 60.
C'est le début des massacres à la tronçonneuse.
Voilà, c'est ça. Non, mais par exemple, le paysan, avant qu'il luttait contre l'aubépine, c'était à la main. Là, aujourd'hui, la tronçonneuse, on sait très bien qu'il y a des gens qui arrivent à arracher des haies. Enfin, c'est un peu la victoire de l'humain sur la nature. Et puis, voilà, la mécanisation qui a joué aussi, le développement des réseaux de transport qui ont aussi arraché des linéaires de haies. Enfin, on estime quand même que dans les années 1950, il y avait 2 millions de kilomètres de haies. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 500 000 kilomètres linéaires. Donc voilà.
Bon, le développement des kilomètres linéaires de haies est inversement proportionnel à celui du développement des kilomètres routiers.
Oui, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et puis, on a également perdu le lien avec l'arbre. Avant, l'arbre, il avait un vrai rôle. Hein. Par exemple, si je prends l'exemple, dans les fermes, hein, le tronc appartenait au propriétaire, mais tout ce qui était au-dessus du tronc appartenait au fermier. Et lui, il servait de ce bois-là pour faire du bois de chauffage, pour faire du charbon de bois. Vraiment, il y avait un usage à l'arbre, il faisait aussi son bois de charpente avec. Et cet usage-là, on l'a un peu perdu.
Est-ce que c'est pas aussi, Dempsey Princey, la recherche de la moindre parcelle de terre supplémentaire, un peu comme si l'arbre d'abord gêne effectivement la moissonneuse-batteuse ou le fait de tourner avec son tracteur, mais aussi la haie, c'est de la surface de céréales perdues.
Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, il y a eu remembrement, donc là il y a beaucoup de linéaires qui ont disparu à ce moment-là. Et puis avec la mécanisation, un arbre au milieu des champs, c'est pas pratique hein, pour tourner avec
ça
la moissonneuse
tâche.
Ou avec le pulvérisateur.
Alors si aujourd'hui une entreprise comme Sylvaterra, que vous avez fondée, d'MC Princey, peut fonctionner, c'est qu'il y a une demande. Pour quels enjeux ?
Alors les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, vraiment celui que je mettrais en haut de liste, c'est vraiment l'enjeu agronomique. C'est-à-dire aujourd'hui on a une situation au sein du monde agricole qui fait que je pense à titre personnel qu'on arrive au bout d'un système. Voilà, le système d'après-guerre hein, qu'on connaît tous actuellement. Les coups de sécheresse qui étaient les derniers coups de sécheresse qui étaient, on va dire, exceptionnels deviennent réguliers. Les inondations qu'on peut avoir aussi l'hiver, avec l'érosion du sol que ça engendre. Le réchauffement climatique hein, qui joue également hein, sur les parcelles, mais à la fois sur les cultures qui prennent des coups de chaud, mais aussi sur les pâtures avec les animaux qui sont vraiment soumis à de fortes chaleurs et avec du stress derrière. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de remettre de l'arbre pour essayer de répondre à ces enjeux, donc agronomiques d'abord, et que la fertilité du sol également, remettre du sol vivant dans les sols agricoles. Ça c'est vraiment l'enjeu de l'agroforesterie, le principal. Et puis ensuite, le deuxième enjeu, c'est écologique. Hein. L'arbre, en fait, il apporte beaucoup de réponses sur les enjeux écologiques. C'est un outil, en fait, ça devient un outil de production. C'est-à-dire que l'agroforesterie, comme je le précisais au début, c'est de l'arbre au service de l'agriculture. Donc là, et ça répond aussi à d'autres enjeux comme la fertilité du sol, la biodiversité, avec les pollinisateurs par exemple. On met aussi beaucoup d'arbres en culture pour amener les auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires, c'est les ravageurs des ravageurs. Typiquement, l'exemple hein, que tout le monde connaît, c'est la coccinelle sur le puceron. Donc on sait que les arbres sont hôtes d'auxiliaires de culture. Et puis à côté de ça, c'est aussi maximiser la ressource en eau, comme je disais, limiter l'érosion du sol. Ramener de l'ombrage aussi pour les animaux, hein. Donc là ça répond à l'enjeu de bien-être animal. Donc voilà, c'est l'arbre en fait c'est un couteau suisse. J'ai envie de dire que c'est un couteau suisse, c'est à la fois producteur et protecteur.
Vous parliez tout à l'heure d'MC Princey de l'enjeu agronomique et du fait de ramener de la vie dans le sol. Est-ce que cette vie a progressivement disparu aussi? Parce que lorsque sont arrivés les engrais chimiques de synthèse, au début, ça marchait bien, parce que le sol était riche précisément d'humus, et puis cet humus a progressivement disparu, au point qu'aujourd'hui, même si on rajoute des engrais, la productivité baisse.
Effectivement, ce que je disais, on arrive au bout du système, c'est-à-dire qu'on a appauvri les sols, et puis des techniques de production. Hein, alors, on parle de labour, par exemple. Hein, alors, on parle beaucoup de semis directs en ce moment chez les agriculteurs, de couverts végétaux. Donc l'agroforesterie, ça répond aussi à ces enjeux. C'est pas uniquement mettre des arbres au sein d'une pâture ou d'une culture. Sur la culture, par exemple, mettre des arbres, c'est il y a tout un système qui gravite autour des arbres. C'est-à-dire que voilà, on parle d'agriculture de conservation avec des semis directs, des couverts végétaux permanents. L'idée, c'est vraiment de ramener aussi des légumineuses dans la rotation pour amener enrichir le sol.
Est-ce que c'est une révolution agricole d'MC Princey au sens étymologique du mot? C'est on revient à quelque chose, et quand vous dites le système est au bout, si aujourd'hui le monde agricole ne réagit pas, il va se passer quoi? Le bout, ça serait quoi?
Alors le bout du système, à mon avis, c'est la désertification. Hein. C'est clairement ça l'enjeu. Hein. C'est là où il n'y a plus d'arbres, de toute façon, c'est les déserts qui apparaissent. Hein. Donc l'idée, c'est ça rejoint aussi l'idée d'appauvrissement des sols. Pardon. À force d'aller piocher toujours dans le sol et de rien ramener en matière, le sol il s'appauvrit. Si en plus il n'y a rien qui retient les éléments en cas de forte pluie, une érosion, c'est pas pour rien qu'on a des rivières qui ont une couleur terre. Hein. Tout ça, c'est de la fertilité aussi perdue au niveau des sols. Quoi.
L'agriculture, à vous entendre, d'MC Princey, devrait être écologique au sens où elle devrait tenir compte des préceptes de l'écologie. Quand on entend les dirigeants du plus grand syndicat agricole, la FNSEA, pour ne pas la nommer, on en est très loin.
Effectivement, il y a encore beaucoup de travail, hein, on est d'accord là-dessus, mais l'idée fait son chemin petit à petit. Hein. Ça fait 25 ans maintenant qu'on parle d'agroforesterie en France.
25 ans déjà.
25 ans déjà, oui, j'ai envie de dire.
C'est à peu près le même délai que pour les conférences sur le climat.
C'est ça, voilà. Alors après, la différence, c'est qu'en milieu agricole, d'habitude, quand on plante, la vision, elle est à court terme. C'est-à-dire au maximum, si par exemple je plante une luzerne, j'aurai le résultat au bout de 3 ans. Là, quand on remet des arbres, c'est un autre temps, un autre pas de temps. Et donc, effectivement, là, on a envie de dire que la mentalité évolue au même rythme que la croissance des arbres. Voilà. Mais ça va quand même dans le bon sens, hein. Honnêtement, moi, je suis assez optimiste pour la suite. Même si là, ça devient urgent d'agir, on sent qu'il y a quand même un mouvement de fond qui est en train de se créer dans le milieu agricole. Hein.
Durablement vôtre, Eric Mutchler.
Voyez cet arbre, je l'ai planté. Ça fait tout près de 100 années. Il est beau seul comme un seul homme. Malgré l'orage et les saisons. Malgré la mort et malgré moi. Il prend racine à l'horizon.
Dempsey Prince est conseiller en agroforesterie, fondateur de l'entreprise Sylvaterra. Nous sommes à Revigny-sur-Ornain, c'est en Meuse. Dempsey Prince, est-ce qu'on pourrait dire que l'agroforesterie, c'est l'idée de remettre du temps dans l'agriculture?
Tout à fait. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. On est bien sur cette notion-là. Comme je disais tout à l'heure, remettre des arbres, c'est un autre pas de temps, en fait, hein. Par rapport à ce qu'on fait classiquement en agriculture, c'est-à-dire que les gens qui plantent aujourd'hui, généralement, ce n'est pas pour eux, c'est pour les générations futures. Mais c'est aussi dans la logique des choses. Aujourd'hui, si on profite de fruitiers, c'est parce que les anciens en ont planté aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre aussi aux générations futures bah, une exploitation, une terre qui pourra être exploitable. Hein.
Quels sont vos clients aujourd'hui de l'entreprise Sylvaterra? Tout à l'heure, je pointais du doigt. Vous ne pouvez peut-être pas le faire parce que ce sont probablement aussi certains de vos clients, moi je peux me le permettre, la FNSEA ou les jeunes agriculteurs, qui ne sont peut-être pas forcément dans ce rapport au temps que vous évoquez, Dempsey Prince, mais quels sont les clients de Sylvaterra?
Alors mes principaux clients, ce sont des paysans, des agriculteurs, des éleveurs, qui veulent voilà, participer aussi, amener en fait leur pierre à l'édifice en remettant de l'arbre dans leur système agricole. Pour répondre à tous les enjeux que j'ai déjà évoqués en début d'émission, mais aussi voilà, transmettre aux générations futures un outil de travail cohérent. Et comme je disais, les arbres, c'est à la fois producteur et protecteur. Donc il y a la notion de production, avec par exemple directement de la production de fruits, c'est aussi diversifier la production sur l'exploitation. On peut aussi imaginer, voilà, les arbres peuvent être valorisés en bois énergie, en BRF, en bois raméal fragmenté. Enfin voilà, il y a plusieurs utilisations du bois.
Ce sont les paysans qui viennent vers vous ou c'est vous qui rencontrez les agriculteurs?
Alors, pour l'instant, j'ai la chance de ne pas trop démarcher. C'est-à-dire que, et pour moi, je pense que c'est vraiment une chance, pas dans le sens où j'ai du boulot avec des agriculteurs, c'est que la demande vient de la base. Et ça, c'est pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais voir les agriculteurs en leur proposant un service. C'est des agriculteurs qui ont envie de changer de modèle, ont envie de planter des arbres, qui viennent me voir et
En même
pour venir
temps,
chercher du conseil technique.
c'est assez compréhensible dans des mesures où j'imagine qu'il faut avoir une certaine curiosité, ouverture d'esprit pour changer de modèle. Alors, très concrètement, Sylvain Terra d'MC Princey intervient comment?
Alors, Sylva Terra, en fait, moi j'interviens directement en faisant du conseil technique auprès des agriculteurs, qui est l'essentiel de ma clientèle. Hein. Alors, agriculteurs, éleveurs, hein, vraiment, j'inclus tous les types de production dans le terme. En fait, je me rends sur place. Généralement, j'ai un premier échange téléphonique avec un porteur de projet. L'idée, c'est qu'après, je me rende sur place pour discuter plus en détail de ses objectifs agroforestiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas planter un arbre pour planter un arbre. C'est un arbre au service de l'agriculture. Et donc, il y a un objectif derrière. Donc, les objectifs, hein, ça peut être juste remettre de la fertilité du sol. Et ça peut être aussi parce que quelqu'un a envie de mettre une haie mellifère, ramener des pollinisateurs sur la culture. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une première rencontre sur le terrain pour aller se rendre compte un peu plus des enjeux, de la typographie. L'idée, c'est de voir aussi un peu le contexte pédoclimatique. On dit le bon arbre au bon endroit. Il n'y a pas.
Pédo, c'est le sol.
Pédo, oui, c'est le sol, pardon. On dit souvent il faut planter le bon arbre au bon endroit.
Un peu
Voilà.
comme fait la nature, quoi.
Un peu comme fait la nature. Et justement, on va sur le terrain pour regarder aussi ce qui pousse naturellement autour des parcelles. Ça nous donne déjà des bonnes indications. Donc ça, c'est la première chose, c'est une visite de parcelle dans laquelle on reclarifie, on hiérarchise avec l'agriculteur ses priorités en termes d'objectifs agroforestiers. Ensuite, moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'accompagnement au projet en réalisant la conception d'un projet, en faisant des propositions. Hein. Je suis jamais en face à face, je me porte jamais face aux producteurs ou aux paysans, je suis vraiment à ses côtés. C'est-à-dire que comment dire, je l'accompagne à mener sa réflexion autour de son projet. Et donc derrière, je vais quand même lui proposer des conceptions, des schémas de plantation, le choix des essences d'arbres, le choix des fournitures, parce que derrière un arbre, il faut le pailler, absolument. Il faut le protéger aussi des dents du chevreuil ou du bétail si.
Ça veut dire, DMC Princey, qu'aujourd'hui, le paysan ou l'agriculteur qui disposait, ça, c'est peut-être encore l'image qu'on en a, peut-être en ville d'ailleurs, de ce paysan qui a le savoir ancestral et qui peut-être sur le terrain n'est plus capable de faire la différence entre un moineau domestique et un moineau friqué. Ce savoir-là, c'est perdu?
Ah, je pense complètement, oui. On a vraiment perdu ce savoir, alors sauf encore ceux qui ont la chance d'avoir leurs grands-parents à côté d'eux, par exemple. Mais on a perdu en fait ce rapport à l'arbre. Hein. Et une action toute simple qui est de planter un arbre, en fait, il n'y a pas de hasard. Si on veut que la plantation elle réussisse, il y a des itinéraires techniques à suivre, avec un travail du sol préalable, avec une bonne saison pour planter. Hein. On ne plante pas un arbre au mois de juin, par exemple. Voilà, la période, c'est de novembre à mars. Donc ça, de toute façon, on est aussi au rythme de la nature, j'ai envie de dire. Donc on a perdu ce lien-là, et justement, mon accompagnement, c'est aussi redonner un peu de technique dans ce domaine. Pour finir avec mon intervention, moi, la conception de projet, c'est les schémas de plantation, les densités de plantation. Donc l'idée, c'est que l'agriculteur, il repart avec une cartographie, avec un schéma de plantation, vraiment, pour lui donner une idée de.
Alors, j'imagine qu'on ne fait pas appel à Sylvain Terra pour planter un seul arbre. Dans vos expériences actuelles d'MC Princey, vous intervenez sur quelle surface? Je veux dire, il y a avant l'intervention de Sylvain Terra et puis il y a après. Ça peut concerner quelle surface pour un agriculteur?
Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de surface prédéfinie. C'est-à-dire que les systèmes de production sont tellement variés que moi, j'accompagne à la fois des éleveurs sur des parcours volailles qui peuvent faire 1 hectare, par exemple, ou même 0,5 hectare, comme j'accompagne des porteurs de projets sur 10 hectares. Voilà. Après, au-delà, c'est difficile de faire des projets au-delà de 10 hectares, en tout cas dans un premier temps. Moi, je conseille vraiment de partir sur des petits projets initialement. Ça permet aussi de se rendre compte du temps de travail que ça va demander derrière, parce que une fois que l'arbre est planté, j'ai envie de dire, on a fait le plus facile. Le plus dur, c'est tout ce qui va suivre derrière, l'entretien, la taille, le maintien des protections, du paillage. Enfin voilà, on ne se lance pas dans une plantation comme ça, sans avoir conscience que derrière, il faut du suivi.
Ça, ce sont les conseils qu'on pourrait qualifier d'individualisés, mais il y a également des formations que propose Sylvaterra.
Tout à fait. Voilà, donc moi je propose des formations aux agriculteurs hein, qui souhaitent en savoir un peu plus sur la mise en place d'un projet agroforestier avec les enjeux qu'il y a derrière, les premiers éléments de gestion. Donc je propose en fait, on va dire, trois types de formations. Une formation spécialisée vraiment en agroforesterie sur la conception et le montage d'un projet en agroforestier. J'ai une formation avec un collègue spécialiste en viticulture durable qui est plutôt centré sur la vitiforesterie. Donc vraiment association arbre-vigne. Et puis j'ai une troisième formation plutôt sur la haie champêtre, avec la conception d'un projet de plantation et puis l'animation d'un chantier de plantation directement derrière.
J'imagine que de la même façon que les agriculteurs ont perçu des primes pour arracher les haies, ils bénéficient aujourd'hui d'aides pour replanter des arbres. Alors, première question, est-ce que j'ai raison? Et deuxièmement, est-ce que Sylvaterra accompagne aussi ces paysans qui veulent, j'allais dire, passer du métier d'agriculteur à celui de paysan en replantant précisément des arbres et des haies?
Alors, en fait, il n'y a pas tant d'aides que ça.
Et puis combien ça coûte de faire appel à Sylvaterra?
Alors, il n'y a pas tant d'aides que ça hein, au niveau régional, en tout cas sur la plantation, même si on pense le contraire. Hein. Alors, par exemple, il n'y a pas d'aide publique actuellement, sauf sur des départements ciblés comme les Vosges, par exemple. Il peut y avoir aussi un peu d'aide publique de la région sur l'ex-région Champagne-Ardenne. Mais à côté de ça, c'est vraiment plutôt sur des financements privés. Qu'on va aller chercher du soutien, notamment avec l'Association française d'agroforesterie, hein, qui soutient des projets de plantation en lien avec Ecocert, par exemple, pour les agriculteurs bio, ou avec des fondations comme la fondation Good Planet. Mais c'est en fait, c'est pas le cœur du sujet. Les gens qui m'appellent, hein, c'est des gens, de toute façon, qui iraient planter, même sans subvention. C'est pas ce qui les motive. C'est sûr que ça permet un passage à l'acte
Ils veulent
plus
planter, mais
aisé.
ils veulent pas se planter.
Voilà, eh ben, tout à fait. C'est aussi ce que je propose dans les formations, c'est planter sans se planter. Voilà, tout à fait.
Alors, combien ça coûte de faire appel à Sylvaterra?
Bah, en fait, hein, ça va dépendre du projet parce que j'interviens à différents niveaux de projet. Là, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était vraiment la conception, l'appui technique. Ça, c'est en amont du projet. Mais derrière, je peux être aussi là au moment de la plantation en faisant vraiment de l'encadrement de chantier participatif. C'est-à-dire que le jour J, je suis là pour redonner les principes de plantation, mettre en place le paillage et protection, comme ça je sais que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors, généralement, ça rassure un peu l'agriculteur hein, que je sois présent. Et puis derrière, je suis là aussi pour le suivi de projet. Comme je disais tout à l'heure, la plantation, c'est le plus simple, c'est le suivi qu'il y a derrière. Notamment sur des arbres, on va tout de suite avoir la taille de formation envisagée. Sur les arbres fruitiers, il y a aussi la taille hein, à envisager également. Et donc moi, j'accompagne les projets sur 2-3 ans, avec l'idée de former le porteur de projet pour qu'il soit autonome. À la fin, c'est vraiment son projet.
Ces princes, si le slogan n'avait pas été accaparé et détourné par une grande banque agricole, on pourrait dire que vous êtes conseiller en bon sens paysan.
Oui, j'aime bien, effectivement. J'aime bien le. C'est, ouais, bah, oui, bien trouvé. Enfin, j'aime bien l'idée. Moi, je me positionnais plus comme un facilitateur de projet, mais c'est vrai que ça va vraiment au sens là. Hein. Et les gens actuellement qui font appel à mes services, comme je disais, hein, c'est vraiment des gens qui ont à cœur de remettre de la vie aussi hein, dans leur système agricole.
Durablement vôtre, Eric Mutchler.
Tu désespères, personne derrière toi, pas de plan de carrière et pas d'horizon. Mais à quoi ça sert d'abolir les frontières? De toute manière, ça change rien dans le fond. Alors je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Des années-lumière, qu'on fait noir sur terre, dès qu'on saute en l'air, on retombe toujours. Misère au
c'est l'enfer sur terre, de trimer tant de temps pour si peu d'amour. Alors je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Les jours, les semaines, les mois, les années filent. Je me vois passer de temps en temps dans mon jardin. Quand je me regarde dans le rétro de l'automobile, je me dis, mon vieux, tu sais, t'as fait du chemin. Alors je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Je taille ma haie, je taille ma haie, je taille ma haie à la cisaille. Le vent vient ou qu'il aille, je taille, je taille. Que le vent vienne ou qu'il aille, que le vent vienne ou qu'il aille, je taille, je taille. Que le vent vienne ou qu'il aille, que le vent vienne ou qu'il aille, je taille ma haie à la cisaille. Que le vent vienne ou qu'il aille, que le vent vienne ou qu'il aille, je taille ma haie à la cisaille. Que le vent vienne ou qu'il
M. Princey, tout à l'heure, vous disiez que c'était essentiellement des paysans ou des agriculteurs qui faisaient appel au service de votre entreprise Sylvaterra, de conseil en agroforesterie. Essentiellement, ça veut dire pas que.
Effectivement. Alors, 90% de ma clientèle sont les agriculteurs, hein, bien évidemment. Mais j'ai aussi, voilà, j'interviens aussi auprès de collectivités, entreprises, associations. Qui portent des projets en fait, de plantation avec l'idée de remettre des arbres champêtres au sein des territoires. Donc, comme je disais, l'agroforesterie, ça a différentes formes. Des fois, je suis sollicité par une association qui souhaite refaire un chantier de plantation de haies champêtres. Et donc, je les accompagne aussi techniquement à la mise en place de la haie.
Tout à l'heure, vous n'avez pas été très précis, M. Princey, quand je vous ai posé la question du tarif pour faire appel à Sylvaterra.
Oui. Alors, en fait, moi, pour répondre à votre question, hein, j'ai un coût journalier. Qui est fixé à 550 € jour. Et en fonction des projets, voilà, donc les projets, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, diagnostic, conception, appui au chantier et suivi. En fonction voilà, de mon intervention, eh ben les jours, enfin, mon nombre de jours va être différent. Donc ça peut être un projet, ça peut être 2-3 jours de conception, diagnostic. Et puis à côté de ça, on peut rajouter des journées pour l'animation de chantier et des journées pour le suivi.
Comment se fait-il que depuis 25 ans que l'on parle d'agroforesterie, d'M.C. Princey, alors c'est tant mieux pour vous bien sûr, mais qu'on ait besoin de gens comme vous, de conseils en agroforesterie, j'ai envie de dire, mais qu'apprend-on dans les lycées agricoles?
Alors dans les lycées agricoles,
ça veut dire qu'on a 25 ans de retard? je vois être mis mal à l'aise.
Non, je suis pas mal à l'aise par rapport à ça. Alors moi-même, j'ai une formation en agronomie. Et c'est vrai que jamais on m'a parlé de l'arbre champêtre en agriculture. Et pourtant, ça fait ça fait pas non plus 20 ans que j'ai fait mes études. Non, je pense que en fait, hein, y a encore une vision de l'agriculture, même au sein des lycées agricoles, qui est vraiment portée sur la production, sur...
La quantité,
les intrants, l'intensification. Alors, paradoxalement, pour moi, l'agroforesterie, c'est faire de l'agriculture de façon hyper intensive. Parce que dans le sens où on valorise vraiment toutes les ressources naturelles, c'est-à-dire on maximise l'apport de photosynthèse, on fait à la fois de la production sous les arbres, mais on fait aussi de la production de biomasse avec les arbres.
Quand est-ce que les agriculteurs comprendront qu'il n'y a pas un système plus productiviste que la nature, ou en tout cas un modèle qui respecte les lois de l'écologie ? Parce que finalement, dans le modèle agricole, on injecte plus d'énergie que le système n'en produit.
Tout à fait. Après, voilà, moi, j'ai pas la réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que c'est un cheminement. C'est-à-dire que, voilà, je pense que remettre des arbres au milieu de ces cultures, c'est pas évident de premier abord. Hein. Et puis, voilà, les anciens, enfin, les pères, les grands-pères ont arraché de la haie ou en tout cas, n'en ont pas replanté. Donc, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire, avant de remettre des arbres en bord de parcelles, on peut déjà voir pour changer ses pratiques agricoles. Et puis, si on a vraiment envie de remettre des arbres, ça peut être déjà en bord de parcelles. C'est-à-dire pour ne pas avoir les arbres vraiment au milieu du champ.
Ce serait trop violent psychologiquement.
Bah, oui, ça peut déjà être ça. Et puis, c'est de se dire aussi, de se rendre compte que voilà, mettre une haie, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a du suivi, il y a de l'entretien. Et donc, ça permet de se rendre compte avant que les arbres soient au milieu de la parcelle. Il n'y aurait rien de pire que de se lancer dans un projet agroforestier. Sans prendre en compte la mécanisation et l'évolution de son système aussi agricole, et puis de laisser les arbres à l'abandon. Cela, on a perdu sur toute la ligne. Quoi.
Tout à l'heure, j'ai été frappé par le fait que vous évoquez qu'il y a très peu d'aides ou quasiment pas d'aides publiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle de la politique agricole commune, la PAC, ne va pas vraiment dans ce sens-là ?
Alors, la PAC a intégré quand même les projets agroforestiers. C'est-à-dire aujourd'hui...
Au moins le concept.
Oui, tout à fait. Il y a une case sur laquelle vous pouvez cocher agroforesterie maintenant sur la PAC. Et au niveau réglementaire, on peut tout à fait planter des arbres dans les cultures, mais aussi, dans les pâtures, pardon, mais aussi dans les cultures jusqu'à 100 arbres forestiers par hectare sans perdre son financement PAC. Ça, c'est sûr. Donc ça laisse déjà beaucoup de possibilités. Hein. Généralement, quand on est sur des arbres intraparcellaires, donc vraiment au milieu des parcelles en grande culture, on est plutôt sur des densités qui tournent autour de 40 arbres hectares. Et je peux vous assurer que déjà, à ces densités-là, le paysage va grandement changer. Donc là-dessus, réglementairement, il y a une belle évolution quand même sur l'arbre en agriculture. Après, voilà, les dernières indiscrétions qui sortent de la future PAC ne vont pas dans le sens de une meilleure prise en compte de l'agroécologie. Et puis essayer aussi de favoriser justement les exploitants qui veulent changer leur modèle et avoir un modèle plus résilient.
Est-ce que c'est une clientèle pour Sylvaterra, un profil de jeunes agriculteurs, de jeunes paysans qui s'interrogent peut-être sur les pratiques de leur père, père au sens parent bien sûr, peut-être aussi père d'ailleurs. Est-ce que ce sont des paysans plutôt bio ou des conventionnels? Et troisième étage de ma question, DMC Princey, est-ce que un agriculteur qui se lance dans l'agroforesterie, est-ce qu'il n'en vient pas quasiment naturellement à l'agriculture biologique?
Alors, j'accompagne vraiment tous les profils, avec quand même effectivement des profils un peu plus récurrents. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup plus d'éleveurs qui font appel à moi sur des projets de plantation que des céréaliers. Parce que l'association arbre-animal, elle est évidente. C'est-à-dire, il suffit de se balader sur les routes de campagne pour se rendre compte que quand il pleut, les vaches sont sous les haies, s'il y en a. Ou alors, s'il y a du soleil, elles sont sous l'arbre pour se protéger de la chaleur. Donc, l'association bien-être animal-arbre avec l'animal, elle est évidente. L'association arbre-culture, c'est encore, elle a encore du chemin à faire dans la tête des paysans. Mais ça arrive progressivement quand même. Alors effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs bio qui m'appellent aussi parce qu'ils ont déjà fait ce cheminement que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que de toute façon, ils ont été obligés de faire évoluer leur système. Donc c'est le cheminement et la fin, c'est remettre de l'arbre au champêtre. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que j'ai aussi des conventionnels qui m'appellent, qui sont en train de
basculer. Quand on dit conventionnels, pour dire les choses autrement, ce sont les agrochimistes, quoi.
Oui, on peut le résumer comme ça, mais je trouve que c'est un peu réducteur de donner que ce terme-là, parce qu'on peut être très bien en conventionnel et puis avoir une démarche qui va quand même dans le bon sens, avec notamment des gens, de plus en plus de gens qui partent vers l'agriculture de conservation, avec le non-travail du sol, avec la réduction des doses. Enfin voilà, l'idée, hein, c'est que l'arbre, il ne doit pas être clivant. Voilà, il s'adapte à tout système. C'est pas, on n'y gagne rien à opposer conventionnel ou bio. C'est vraiment des gens qui veulent remettre de l'arbre champêtre dans les territoires et qui veulent vraiment faire modifier leur système agricole. Pour répondre à la deuxième partie de la question, il y a tous les profils. On a des gens là, qui sont bientôt à la retraite et qui veulent un peu se rattraper en plantant des arbres pour les générations futures parce qu'à l'époque, eux, ils ont fait partie de la génération qui ont arraché des haies, par exemple. J'ai quelques profils comme ça, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même des jeunes agriculteurs qui sont installés depuis 5, 6 ans. Et on dit souvent le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et s'ils veulent profiter aussi de l'intérêt des arbres sur leur exploitation, c'est maintenant qu'il faut planter. Donc on a vraiment tout type de profil.
Quand on vous entend, M. Princey, on se dit, mais c'est l'évidence. Quel est le principal frein qui aujourd'hui encore empêche peut-être plus d'agriculteurs à tout simplement à consulter Civatera?
Le principal frein, il peut être déjà financier. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de financement public, ça peut être un frein. Même si les gens qui font appel à moi, il n'y a pas d'effet d'opportunisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui auront planté avant, mais ils vont mettre plus de temps à le faire sans financement. L'autre frein, c'est des références techniques. C'est-à-dire, par exemple, l'agroforesterie qui est développée depuis 25 ans en France, on a beaucoup de références dans le sud de la France. Il y a pas mal de projets qui voient le jour en Grand Est, mais on manque quand même de références techniques vraiment spécifiques au Grand Est. C'est en train d'évoluer, hein. Il y a pas mal d'expérimentations en cours. Un autre frein, c'est aussi le fait de le regard du voisin. On n'en parle pas beaucoup, mais au niveau agricole, hein, le regard du voisin de se dire je suis entre guillemets l'uluberlu qui va remettre des arbres au milieu de sa parcelle, ça peut questionner. Et au final, on se rend compte que en fait, c'est ces gens-là qu'on va aller voir 2 ans après parce que le système questionne dans le bon sens. Et finalement, c'est les voisins qui après vont s'y mettre, quoi.
Durablement vôtre, Eric Mutschler.
Giving tree have fallen, no shade to crawl in underneath. I've got scars from a pocket knife where you carved your heart into me. If all you wanted was love, why would you use me up? Cut me down, build a boat and sail away. When all I wanted to be was your giving tree. Settle down, build a home and make you happy. I lie in the dead of night and I wonder whose covers you're between. Feel hollow, so you crawl home back to me. If all you wanted was love, why would you use me up? Cut me down, build a boat and sail away. When all I wanted to be was your giving tree. Settle down, build a home and make you happy. Well, I see a trail that starts, a line of broken hearts behind you that lead you back to me. The once sad and lonely fool with nothing left but roots to show. Love, why would you use
close me up, cut me down, build a boat and sail away. When all I wanted to be was your giving tree, settle down, build a home and make you happy. Settle down, build a home and make you happy.
MC Princey pour créer Silvaterra, société de conseil en agroforesterie. J'imagine que vous avez la formation qui va avec.
Alors effectivement, moi j'ai un parcours d'agronome. Je suis agronome de formation. Donc pour rentrer dans les détails, moi j'ai fait un DUT en agronomie à l'UIT de Nancy-Brabois, que j'ai poursuivi par une licence pro en agronomie, avec déjà un volet aménagement du territoire. Je trouve que c'est important quand on parle d'arbres aussi d'avoir cette notion de paysage et de notion de territoire, parce que l'arbre, c'est pas seulement sur une parcelle, ça englobe aussi tout un bassin versant. Enfin voilà, notion de territoire importante. Donc suite à licence pro agronomie, j'avais déjà une orientation vers le développement durable des territoires. J'ai poursuivi avec une maîtrise en géographie. Et j'ai fini mon parcours, entre guillemets, avec un master 2 en agroécologie, justement sur la gestion des parcelles agricoles avec des animaux ou avec des éléments écologiques, quoi.
Et vous êtes vous-même issu de milieu agricole ?
Pas du tout. Alors, pas du tout. Je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. Mon parcours, il est vraiment... Enfin, voilà, hein, je vous ai dit mes études. À côté de ça, moi, j'ai été responsable d'une association de protection de l'environnement pendant 7 ans, une association qui s'appelait Lorraine Nature Environnement, au sein de laquelle voilà, j'étais amené à rencontrer beaucoup de personnes sur des sujets variés, que ce soit à la fois sur des projets industriels, des projets forestiers, des projets agricoles, des projets avec l'eau. Et ça m'a permis en fait d'avoir un panel de compétences dans tous ces domaines, donc une riche expérience. Et à la suite de mon départ de l'association, j'ai refait une formation spécifique de conseiller en agroforesterie. Je souhaitais à l'époque remettre un peu plus, me rapprocher un peu plus du milieu agricole, et je voulais trouver aussi une solution de faire le lien entre l'agriculture et l'environnement. Et l'agroforesterie répondait parfaitement à ma demande. Donc j'ai fait une formation spécifique, unique en France, de technicien conseil en agroforesterie. C'est une formation...
À quel endroit ?
Alors c'est une formation basée au lycée forestier de Crosny, avec le CFPPA de l'Aube. C'est une formation qui a vu le jour en 2015, qui existe encore aujourd'hui. Et moi, je faisais partie de la deuxième promotion. Et suite à ça, donc c'est une formation de 9 mois, assez longue quand même, hein. Voilà, j'ai créé mon entreprise, et maintenant ça fait 4 ans voilà, que j'ai créé Silvaterra et que j'interviens sur le Grand Est.
Cette passion de l'arbre et de la haie d'MC Princey, vous savez d'où ça vous vient?
Je pense que je sais pas, ça s'explique pas. Pour moi c'était une évidence, hein, vraiment. Si on regarde dans la nature ce qui se fait, il y a une association arbre, culture naturelle, les arbres ont toute leur place.
L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? DMC Princey, fondateur de Silvaterra, agence, on peut dire agence, structure, entreprise.
Structure, oui.
Structure de conseil en agroforesterie. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule?
Alors, plutôt coup de cœur. Moi, j'ai envie de parler de la coopérative d'entrepreneurs au sein de laquelle j'ai lancé mon activité.
Où nous sommes aujourd'hui.
Où nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à Synercoop, qui est une coopérative d'activité et d'entrepreneurs, qui en fait permet à des personnes qui souhaitent se lancer dans la création d'activités d'avoir un accompagnement à la fois administratif, financier, fiscal et juridique, tout en ayant voilà, l'appui technique de chargé d'accompagnement pour mener à bien le développement de son activité.
Alors, on l'a dit au tout début de l'émission, MC Princey, nous sommes ici à Remigny-sur-Ornain. Pour les rares auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas Remigny-sur-Ornain, on est dans la Meuse. Combien d'habitants ?
Alors à Remigny, il y a 3000 habitants.
On ne s'attend pas à tomber sur une structure comme Synercoop ici.
Bah, c'est vrai, mais c'est aussi un peu le pari qu'on a fait, c'est refaire du lien en milieu rural. Synercoop aujourd'hui, donc c'est une coopérative qui regroupe 110 entrepreneurs. Donc concrètement, ça veut dire que demain, vous voulez lancer votre activité à Synercoop, on aura le même numéro de SIRET. Donc le portage juridique se fait par Synercoop, par contre, on développe son activité au sein de la coopérative.
Quand vous dites « on a », ça veut dire que vous êtes le créateur ou cofondateur de Synercoop ?
Alors non. Synercoop, c'est une entreprise partagée. Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire « on » ou « je m'inclus vraiment dedans ». Alors, c'est vrai qu'actuellement, je suis co-gérant de la coopérative. Donc, il y a 6 co-gérants à Synercoop. Et donc, j'ai plus facile à promouvoir un peu voilà, l'idée qu'elle partage. Hein. Donc, Synercoop, hein, coopérative d'activité d'entrepreneurs, comme je disais, c'est appui juridique, fiscal, administratif. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, au sein de mon activité, j'ai 90% de mon temps qui est consacré vraiment à l'accompagnement de porteurs de projets. Et j'ai 10% qui est consacré, on va dire, à l'administratif. C'est-à-dire que la comptabilité est réalisée par la coopérative. Je me verse un salaire au sein de mon activité. La fiche de paye est réalisée aussi par la coopérative. Et puis à côté de ça, je vais trouver du réseau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une contrepartie. Il y a une contribution coopérative qui est prise sur chaque facture que je vais éditer. Voilà.
Qui est de l'ordre de ?
Alors là, on est actuellement, donc c'est revu tous les ans en Assemblée Générale, hein. C'est une décision des entrepreneurs, et aujourd'hui, on est à 13% de la marge brute. Donc il y a 13% de ma marge brute qui part...
Pour s'occuper de tout ce qui est administratif.
Voilà, pour payer en fait les fonctions support, parce qu'il y a 4 salariés actuellement à Synercoop qui font le suivi comptable administratif et qui font aussi l'accompagnement de projet. C'est-à-dire qu'au sein de Synercoop, on a également des formations commerciales pour se présenter à une minute, concevoir son site internet.
Parler à la radio.
Parler à la radio, tout à fait. On a aussi des formations sur positionner son offre commerciale. Déjà, quelque chose de pas facile, c'est positionner son prix. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de discuter de tout ça, de faire des formations par rapport à ça. L'avantage aussi à Synercoop, comme j'ai dit, il y a 110 entrepreneurs et donc on crée du réseau.
Quand je suis arrivé tout à l'heure ici à Synercoop à Rubigny-sur-Orlin, MC Princey, j'ai pu saluer quelqu'un qui est déjà intervenu dans cette émission. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas tout seul. C'est un peu une. Bon, tout à l'heure, on parlait bien sûr, c'était le sujet de l'émission avec vous, d'agroforesterie. Vous parlez de plantes mellifères et de haies mellifères. C'est aussi un peu ça l'idée. C'est un peu l'idée de la ruche et de ne pas être tout seul, peut-être dans son coin, au milieu rural, perdu au milieu de nulle part.
Tout à fait. On est vraiment là. C'est sortir l'isolement aussi de l'entrepreneuriat. C'est créer du réseau. C'est aussi partager des compétences. Actuellement, moi, par exemple, je disais tout à l'heure la formation vitiforesterie que je mène, je la fais avec un collègue de Synercoop qui est lui spécialiste en viticulture durable. Donc, c'est aussi créer voilà, des moments de partage comme ça où on peut aussi se positionner sur d'autres offres sur lesquelles on n'irait pas forcément.
Est-ce que vous auriez créé Sylvaterra sans être accompagné par la coopérative Synercoop? Et si oui, qu'est-ce que ça aurait changé?
Non. Honnêtement, non, parce que j'ai une expérience de vie qui fait que je suis vraiment sur la mise en réseau, la coopération et la non-compétition. On est plusieurs, je n'ai pas précisé, mais on est plusieurs, par exemple, techniciens agroforestiers au sein de la coopérative, donc répartis sur le territoire du Grand Est.
Donc là, vous allez faire de la promo de vos concurrents?
Ah oui, ce n'est pas des concurrents parce qu'on est dans la même entreprise. Donc si mon collègue, c'est pas des concurrents mais des collègues, si mon collègue facture en champagne, il œuvre aussi pour le bien collectif, c'est-à-dire au niveau de Synercoop. Quoi. Voilà. Donc non, c'est vraiment la mise en réseau, le partage, l'idée aussi de porter un projet de territoire. Synercoop, c'est pas seulement une coopérative, c'est aussi une vision de l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise qui est partagée, qui porte des valeurs. Et donc, à travers mon activité, je porte aussi tout le bagage de la.
Et comment est-ce que Synercoop s'inscrit dans la logique du territoire? Autrement dit, est-ce que les élus de Rubigny-sur-Ornain et au-delà du département, par exemple, soutiennent une coopérative comme Synercoop ou pas?
Alors, au niveau local, on est très soutenus. Hein. Les locaux dans lesquels on est présent actuellement pour l'émission, on les a intégrés il y a 6 mois, avec une volonté politique, justement, de créer vraiment un tiers-lieu à Rubigny-sur-Ornain. Donc un tiers-lieu de travail, mais pas que. L'idée on est au sein du pôle coopératif actuellement. Et dans ce pôle coopératif, il y a une structure qui s'appelle Synarcop, mais aussi d'autres structures. Il y a une couveuse d'entreprise pour l'avenir. Aujourd'hui, on est dans un espace de coworking, mais demain, j'ai une entreprise et je veux louer des bureaux. Il y a aussi une pépinière. Donc vraiment, premier tiers lieu de travail en Meuse.
Et est-ce que vous êtes destiné, les entreprises qui sont hébergées par Synarcop, et la vôtre en particulier, DMC Princey, Silvaterra, à demeurer en coopérative, ou est-ce que vous allez un jour prendre votre envol?
Le principe de l'économie sociale et solidaire, c'est la libre adhésion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon activité, je reste maître de mon activité. C'est-à-dire que je développe au sein de Synarcop, mais je choisis ma clientèle, je choisis ce vers quoi je veux aller. C'est juste que j'ai l'accompagnement technique et juridique de Synarcop derrière. Donc le principe de libre adhésion, c'est vraiment un principe clé de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux partir de la coopérative et m'immatriculer à mon compte. Enfin voilà, il n'y a pas de... On a un contrat, j'ai quand même un contrat avec la coopérative, mais je reste maître de mes décisions.
Merci DMC Princey.
Merci à vous en tout cas.
Voilà pour ce reportage sur l'activité de Silvaterra, conseil et formation en agroforesterie, fondée par DMC Princey et installée à la coopérative d'entreprise Synarcop à Rumigny-sur-Ornain, dans la Meuse. Pour en savoir plus sur Silvaterra et pourquoi pas faire appel aux compétences de DMC Princey et ou suivre une formation en agroforesterie, rendez-vous sur silvaterra.fr. Vous avez pu écouter, dans l'ordre, Au pied de mon arbre par le groupe québécois Henry Band, Je taille ma haie par le breton Mélène Favennec, et enfin The Giving Tree par le groupe américain Plain White Tees. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site durablementvôtre.fr.